Peu protégés par les chartes de déontologie et la loi, on les appelle les lanceurs d'alerte. Ce sont eux qui dénoncent les scandales dans certains milieux auprès des journalistes. Face à la justice, leur statut est vulnérable. Alors comment mieux les protéger lorsqu'ils collaborent avec des journalistes ? Retour sur l'avis d'Alexandre Buzyn, journaliste et membre du Syndicat national de journalistes présent aux Assises du journalisme de Tours. Les journalistes sont les premiers à avoir un rôle à jouer dans la protection des lanceurs d'alerte.
Il faut que les journalistes fassent attention quand ils travaillent avec eux à ne pas les exposer outre mesure. Il y a forcément une exposition quand on est lanceur d'alerte, mais on n'est pas obligé, on est déjà bien les avertir des risques qu'il y a de la médiatisation et puis derrière effectivement de cette capacité à pas les exposer plus que de raison. Ce qui compte en fait fondamentalement, c'est pas la personne du lanceur d'alerte pour moi, c'est l'information qu'il donne. Donc effectivement, il faut pas forcément outre mesure mettre en avant la personne. Donc les journalistes ont un rôle là-dedans.
Des avancées ont été faites pour mieux protéger les lanceurs d'alerte, mais des failles restent encore visibles.
En fait, les chartes, c'est des grands principes généraux qui peuvent s'appliquer. C'est leur gros avantage, c'est-à-dire que c'est les grands principes, mais qui sont la première charte, c'est celle du SNJ en 1918. À l'époque, on ne parlait pas de télé, on ne parlait pas de radio, on ne parlait pas de lanceurs d'alerte, on ne parlait pas d'internet, on ne parlait rien. Mais simplement, les principes de 1918, ils sont toujours valables aujourd'hui parce que c'est des grands principes fondamentaux. Donc en fait, on les retrouve dans un certain nombre de chartes sur la prudence dont doit faire preuve le journaliste et le fait qu'il devra porter une attention particulière aux personnes dites vulnérables. Enfin, c'est la charte de la FIGE. Et moi, je trouve ça très important. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez affaire à des gens qui ne connaissent pas forcément le système médiatique. Et donc, c'est pas pour ça que vous devez prendre l'information et vous tirer avec et l'exposer partout et qu'on assume les conséquences. Il faut bien faire comprendre à la personne. Donc oui, pour moi, dans les chartes, il y a des choses qui correspondent aux lanceurs d'alerte. Mais c'est des principes généraux qu'on peut dupliquer sur les lanceurs d'alerte, qu'on peut dupliquer sur toutes les sources, qu'on peut dupliquer sur des témoins. Donc c'est vraiment faire preuve d'attention aux gens. Et de bien de pas se servir des gens quoi, de pouvoir publier l'information mais bien être précautionneux vis-à-vis des gens, des lanceurs d'alerte comme des autres en fait.
Mais aussi dans les textes de loi.
La loi, elle a été globalement dans le bon sens, a eu des avancées, même s'il y a encore des choses qui sont perfectibles, mais il y a eu une régression majeure à mon avis, c'est qu'elle a ajouté des exceptions à la loi. Il y en avait 3 au départ, on est à 5 exceptions. 5 sujets où on a, y a pas de secret, le secret est absolu et non, on n'a pas le droit, le lanceur d'alerte n'a pas le droit d'en parler. Et ça, pour moi, on ne peut pas avoir le statut de lanceur d'alerte si on est sur ce sujet-là. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème. Donc effectivement, la loi, elle peut progresser là-dessus, quoi.
6 mois, c'est la durée qui permet de reconnaître le statut de lanceur d'alerte dans la loi. Sans reconnaissance, ils sont plus facilement attaquables par des institutions administratives ou judiciaires.
Je ne sais pas s'il existe une solution. Je pense que la loi doit être... Ça a été bien dit, c'est-à-dire que la loi, on part sur une loi française qui considère le lanceur d'alerte comme un danger. Donc on lui donne quand même des garanties, mais au départ, le danger, c'est pas ceux qui font des bêtises, entre guillemets, ou bien plus grave que ça. C'est le lanceur d'alerte qui va faire dysfonctionner ça. C'est une chance, le lanceur d'alerte, c'est pas un danger. Donc déjà, il y a l'orientation de cette loi. Puis en plus, effectivement, enlever des exceptions, parce que c'est... Que ce soit pas absolu, mais il faut que les exceptions soient beaucoup plus limitées. Et puis après, il faut qu'on passe à la capacité à reconnaître un statut aux personnes morales, c'est-à-dire aux personnes, aux personnes morales, c'est-à-dire aux associations qui aident en fait les lanceurs d'alerte, qui n'ont pas de statut. Et ça, on pense que c'est important, les associations qui sont là en soutien ou qui aident le lanceur d'alerte, qui est quelqu'un qui est éminemment seul souvent, elle devrait avoir un statut aussi. Un des caps de progression de cette loi, c'est effectivement reconnaître le statut de lanceur d'alerte à des personnes morales également. Je pense que ça serait une bonne échéance à fixer. Association qui aide les lanceurs d'alerte. Bon, moi, je ne sais pas, pour moi, la maison des lanceurs d'alerte, par exemple, typiquement, c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais des personnes morales qui travaillent sur un sujet et qui ont des faits à dénoncer. Il peut y avoir des personnes à l'intérieur de l'association qui peuvent avoir le statut de lanceur d'alerte, mais l'association en tant que telle ne peut pas l'avoir. Alors que si elle travaille sur un sujet précis de gravissime, ça peut, pour moi, l'association peut tout à fait avoir le statut de lanceur d'alerte, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Par la loi.
Certains facteurs négatifs pourraient dissuader les lanceurs d'alerte de continuer à faire leur travail. Pourtant, s'ils ne le font pas, ils commettent une faute grave. Les associations et les journalistes doivent continuer de se battre pour mieux protéger les lanceurs d'alerte.